C'est Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 18 mars. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, bien évidemment. Votre émission préférée est disponible sur le 87.7 FM en DAB+ et en réécoute sur notre site radiocampusamiens.fr. Côté musique, aujourd'hui, on vous propose Out of Time Man de Mano Negra et Laundromat de OK Will. Mais avant d'écouter tout ça, aujourd'hui, on est plusieurs dans les studios et on va commencer, comme d'habitude, avec l'interview du jour. Et Colline, c'est toi qui as la parole.
Bonjour Aline, merci. Et effectivement, je reçois Blandine Delcroix, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes autrice et réalisatrice, notamment du documentaire « Vivre, c'est vieillir ». On vous reçoit aujourd'hui pour en parler, puisqu'il y a un mois, enfin presque un mois, il était diffusé lors d'un ciné-débat à l'Institut Fairface à Amiens. D'abord, avant qu'on entre dans le vif du sujet sur le documentaire, est-ce que vous pouvez vous présenter et pourquoi être devenue réalisatrice ?
Oui, merci d'abord de me recevoir aujourd'hui. Pourquoi je suis devenue réalisatrice ? Ben, je dirais que je ne suis pas tombée dans le chaudron de l'écriture documentaire quand j'étais petite, mais que c'est une trajectoire de vie professionnelle surtout qui m'y a amenée, puisque en 2011, je travaillais au Caire, à vrai dire, avec des danseurs. Et je me suis retrouvée donc 2011, 25 janvier 2011, c'est le début du soulèvement populaire en Égypte. Et j'avais une caméra dans la poche et j'ai commencé à filmer. Voilà, donc l'écriture du réel, c'est ça le documentaire.
Et c'est ce qui vous a marqué et donné envie de continuer encore aujourd'hui ?
Absolument, oui.
Alors, vous venez parler du documentaire « Vivre, c'est vieillir ». De quoi est-ce que ça parle ?
Alors, ce film parle du vieillissement, du processus du vieillissement et de la fin de vie. C'est un film tout à fait particulier puisqu'il raconte l'histoire de ma propre mère que j'ai filmée. Et je crois que la force de ce film tient avant tout dans la durée du tournage. Et c'est ça qui est assez génial finalement dans l'écriture documentaire. En tout cas, moi, c'est ce que je privilégie, même si c'est pas toujours facile à produire ni à vendre, c'est-à-dire de filmer sur la durée. Et s'agissant du vieillissement, c'est absolument essentiel puisqu'on parle d'un processus, d'une métamorphose, d'une transformation. Donc, si on filme une personne à un instant T, on ne va pas percevoir cette question-là. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment essentiel de travailler de cette manière-là. Voilà. Donc, ça m'a pris, entre les premiers rushs et les derniers, 18 ans se sont écoulés.
Oui, vous avez commencé à la filmer dès qu'elle avait eu 70 ans.
Voilà.
On reviendra après, justement, sur ce processus. Il est sorti en 2022. Fin 2022-2023, pourquoi est-ce que 4 ans plus tard, il est toujours autant d'actualité ?
Alors, je dirais qu'il est toujours autant d'actualité, il est même quelque part encore plus d'actualité aujourd'hui, et peut-être le sera-t-il encore davantage demain, c'est-à-dire que, bon, c'est pas un scoop que de dire que la question du vieillissement, de la fin de vie, de l'accompagnement des sujets âgés. Je préfère dire sujets âgés que personnes âgées, parce que tout à coup, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Hein. On parle des enfants, des adultes, des jeunes adultes, des ados, etc. Et tout à coup, on parle des personnes âgées, comme si déjà, ils n'appartenaient pas tout à fait à la même communauté humaine que nous. Et donc, ben, le vieillissement, voilà. À force de dire que c'est une bombe à retardement, enfin voilà, le système est enclenché depuis quand même assez longtemps, et que là, ça devient mais carrément urgent, c'est un présent, quoi. Et dans quelques années, et le temps passe vite, ça sera encore pire. Donc, c'est une urgence absolument de société. Et qui va aussi travailler sur les questions de solidarité, bien évidemment, de vulnérabilité, etc., etc.
Alors, vous avez filmé votre mère pendant 18 ans. Vous avez commencé ce travail vidéo à partir de ses 70 ans, comme on l'a dit plus tôt. Pourquoi à partir de ses 70 ans et pas avant ou pas après?
Alors, pourquoi pas avant? Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je le regrette vraiment de ne pas avoir commencé, mais carrément, mais bien avant. Alors là, j'aurais eu peut-être un film qui aurait duré bien plus longtemps, où j'aurais pu faire une série. C'est d'ailleurs une réflexion que j'ai menée. Bon, le film était déjà monté, mais il est vrai que c'est un sujet qui s'y prête à la série documentaire, le vieillissement. Donc, pourquoi j'ai commencé à 70 ans? En fait, je n'avais pas idée que j'allais faire un film. Donc, je me suis mise à la filmer comme, je dirais, on filme ses proches, les gens qu'on aime. Et puis, voilà, rien de plus. Et chemin faisant, le temps passant, et je me suis formée aussi au passage à l'écriture, la réalisation et le montage documentaire. Donc, bien sûr, tout ça est à travailler en parallèle.
J'aimerais revenir sur une phrase intéressante qui est dite dans le film, c'est « être vieux et vieillir ». Est-ce que vous pensez que c'est la même chose ?
Alors, personnellement, je ne pense pas du tout que ça soit la même chose. Alors, dans le film, ma mère ajoute après ça, « être vieux, c'est pas la même chose que vieillir ». En tout cas, elle distingue vraiment, et elle n'aime pas d'ailleurs dire « être vieux, non, c'est vieillir ». Et elle ajoute « mais tout le monde y passe ». Et je crois que vraiment, cette phrase-là, ces mots-là, dit tellement simplement, et c'est tellement juste, ça résonne tellement de notre condition humaine. Eh bien oui, tout le monde y passe. Donc, en ce qui me concerne, je dirais que on perçoit les effets du vieillissement un peu dans le corps, dans les relations au monde, les relations aux autres, etc. Mais je dirais que c'est la vie, voilà. Et être vieux, je trouve que c'est quand même un peu stigmatisant, voilà.
Alors, vous la filmez dans son intimité, elle parle ouvertement avec vous de coquetterie. C'est à la fois amusant et sincère, alors elle ne parle pas que de ça. C'était important pour vous de garder une totale transparence et sincérité dans ce documentaire ?
Alors, totale transparence, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de totale transparence pour la bonne et simple raison que quand on cadre, il y a un hors-champ. Et quand on monte, on fait des choix. Et je vous laisse imaginer le nombre d'heures de rush que j'avais. Pour arriver à un film de 54 minutes, il a fallu faire des choix draconiens. Mais il y a toujours quelque chose qu'on ne montre pas ou qu'on ne veut pas montrer. Mais sur la question de l'authenticité ou de la sincérité, par contre, oui, ben je dirais que de filmer quelqu'un qui est aussi proche, tout est fondé sur la confiance. Et de sentir aussi jusqu'où on peut aller, jusqu'où on va pouvoir porter son regard en gardant une chose essentielle qui est celle de la dignité. Cette question de la dignité qui rejoint celle du regard qu'on pose, et pas forcément sur un sujet âgé, mais qu'on pose sur l'autre en général. Ce regard plein d'égards, pour moi, c'est un peu ça la clé pour ce film-là, carrément. Quoi.
Elle vous a fait confiance, du coup
pour... Ah oui, les yeux fermés. Elle n'a pas vu le film, elle n'a pas vu les rushs. Donc,
Quand vous avez commencé à filmer son quotidien, sa vie, est-ce que vous saviez que vous vouliez en faire un documentaire ou c'est à vous filmer comme ça pour avoir une idée, garder en tête sa mémoire ?
Alors, non. Comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à la filmer, en effet, comme on filme sa famille, des gens qu'on aime, garder des traces... Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait tellement facilement. Donc, et puis, le temps passant, le vieillissement n'est pas forcément un long fleuve tranquille et qu'il y a un certain nombre de fractures au sens même du récit, mais dans la trajectoire de vie qui vont avoir lieu. Et progressivement, j'ai pris conscience de l'intention de mon propre film en faisant. Ce qui n'est pas du tout, le chemin habituel quand on écrit et qu'on réalise un film documentaire. C'est-à-dire qu'en général, on fait beaucoup de recherches, on va sur le terrain, on fait ce qu'on appelle des repérages. Et ensuite, on écrit un dossier pour le produire. Bon, là, il est bien évident que j'ai rien fait de tout ça, puisque j'ai commencé à filmer pendant longtemps avant de rencontrer un producteur, mais au bout de 10 ans. Donc, et à ce moment-là, mon intention, j'ai pu l'écrire, mais à partir déjà d'une matière assez importante dont je disposais déjà.
Alors, il y a l'histoire de votre mère dans ce film, mais il y a aussi la vôtre. Dans le film, on suit une chronologie du temps, la vieillesse donc, de votre mère, mais aussi le temps qui passe pour vous. Pourquoi avoir choisi cet effet miroir ?
Je dirais que je ne l'ai pas choisi, mais à vrai dire, je l'ai éprouvé. Bien sûr que filmer quelqu'un qui vieillit, mais je fais aussi partie du processus. Donc ça m'interroge en effet, et le fait que ce soit ma mère, bien sûr, avec cette peur aussi de la perdre, donc ça me renvoie aussi à ma propre condition, à la fois de fille et de femme, qui vieillit. Donc toutes les questions finalement que je lui pose, c'est aussi à moi-même que je les pose.
Dans la présentation du film, vous parlez de la tyrannie discrète et séduisante du bien vieillir. Je cite vos mots. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une vérité, c'est un point de vue qui est le mien, en sachant aussi que finalement, c'est toujours un work in progress, comme la pensée peut l'être, sur ces sujets-là en particulier. Donc, ce que je veux dire par cette tyrannie du bien vieillir, c'est qu'au fond, si le bien vieillir devient une injonction sociale, qui cherche à tout le temps éduquer, rééduquer, remettre debout, et aller, et il faut continuer à vivre bien. Mais si ça cache un manque absolument cruel d'accompagnement de la vie jusqu'au bout, il ne faut pas être dupe de ces slogans aussi du bien vieillir, même si j'ai rien contre et je pense que tout le monde a envie de bien vieillir, évidemment.
Et vous parlez d'un autre modèle envisageable pour vous. Quel serait le modèle ?
Alors, je dirais qu'entre le moment où j'ai écrit ça et ce qui se passe aujourd'hui et la réflexion, évidemment, que j'ai alimentée, nourrie avec les nombreuses rencontres que j'ai pu faire lors des ciné-débats que j'organise autour de ce film. Je reste optimiste, mais pas tant sur un nouveau modèle, parce que c'est compliqué quand même de renverser la table, mais plutôt d'imaginer avec le modèle existant comment on peut l'améliorer. Et j'aurai deux mots sur la question de l'accompagnement et de ce que veut dire le soin aujourd'hui. Soigner quelqu'un, c'est pas seulement, et c'est loin d'être seulement un geste technique. C'est l'écouter, c'est singulariser l'accompagnement. Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu de société, parce que c'est un enjeu de solidarité aussi de notre société, où les bien portants, les plus forts, vont aussi accompagner les plus vulnérables et les plus fragiles.
Est-ce que c'est pour cela que c'est important pour vous de le montrer auprès des étudiants, étudiantes, des aidants, des soignants ?
C'est fondamental. Alors, c'est venu en faisant aussi, mais j'ai vraiment pris conscience que ce film, comme c'est un objet sensible, si vous voulez, il sensibilise au-delà d'un discours construit. Et je dirais que quand j'ai pu le présenter auprès de, de futurs soignants en particulier, les retours ont été au-delà de ce que je pouvais imaginer, à vrai dire, et ça les a beaucoup, je crois, interpellés. Et ça, c'est gagné.
Est-ce qu'il va y avoir de prochaines projections? Est-ce que vous avez des envies particulières avec ce film? Quelle est la suite que vous voulez pour ce film, pardon?
La suite, je dirais que j'ai envie qu'il passe partout, qu'il y ait des ciné-débats partout. Là, prochainement, dans un mois, il y a une rencontre d'une structure de coordination territoriale dans l'est de la France, pas très loin de Bar-sur-Aube, qui va rassembler des personnes qui travaillent en EHPAD, en résidence autonomie. Je ne sais pas exactement combien il y aura de personnes présentes à ce moment-là. Et puis j'ai d'autres perspectives. Mais ce qui me tient vraiment à cœur là tout de suite, c'est la sensibilisation. Et une sensibilisation auprès notamment des plus jeunes. Et de créer comme ça des dialogues et des échanges et des réflexions entre les générations.
Et justement, ces échanges et les retours que vous avez pu avoir, je parle des étudiants ou des plus jeunes, quels sont-ils ?
Par exemple, je pourrais vous... Alors, je ne vais pas la citer de manière précise, mais le retour d'une jeune femme élève infirmière ici, à l'Institut de formation en soins infirmiers au CHU d'Amiens, Pinel. Et qui me disait, elle est en première année, cette jeune femme, première année d'école. Et elle me disait, le mois prochain, je vais aller faire un stage dans un EHPAD. Et votre film m'a marquée parce que quand je rentrerai dans la chambre d'un résident, je me souviendrai toujours que cette personne-là, elle a été une mère, elle a été un enfant, une adolescente, une jeune femme avec une vie. Et que quand on prend conscience de ça, déjà, le regard change et le soin est différent, déjà. Donc, c'est chouette.
Je pense qu'on peut terminer cette interview sur ces très beaux mots. Merci beaucoup, Blandine Delcroix.
Merci à vous. Merci.
Can't you see? No use in waiting no more. It's time to try.
Vous venez d'écouter Out of Time Man de Mano Negra. Pour cette deuxième partie d'émission, j'accueille Margot dans les studios de Radio Campus Amiens. Salut.
Bonjour tout le monde.
Vous avez de la chance aujourd'hui, pardon, car on ne va pas vous parler d'un seul spectacle, mais bien de deux. Et on commence avec toi, Margot. Tu t'es rendue à la Maison du Théâtre d'Amiens.
Et oui, hier soir à la MTA, moi je suis allée voir Lymphblood Story 9424, j'imagine que ça se dit en anglais aussi, une performance de Julie Beauté, originaire de Lille. Dans ce théâtre vidéo et photographie, elle ne raconte pas son histoire, elle nous la montre, l'histoire d'une petite fille perdue et apeurée. Avant même que la pièce ne commence, le public est invité dans la salle, autour de la scène, enfin on peut même dire dans la scène, pas de gradin, quelques bancs autour d'un cercle formé de barrières et Julie, assise au fond de la salle comme une poupée un peu cassée, seule et un peu effrayante dans ce décor froid sous une lumière perçante, immobile, comme dans une salle d'attente. Rapidement, l'artiste nous plonge dans un climat déstabilisant, calculé méthodiquement avec une musique quelque peu effrayante et elle, qui se déplace, qui danse, qui murmure sa douleur. Puis elle nous présente son histoire à travers ses souvenirs, à caractère parfois humoristique, enfantin ou douloureux. On voyage ensemble à travers son histoire, dans laquelle on se plonge petit à petit, même si c'est d'abord avec hésitation. Alors, je ne peux pas vraiment vous en dire plus sur ce qu'il s'y passe dans ce théâtre avec Julie Beauté, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été très touchée et je pense que chaque spectateur autour d'elle l'était aussi. J'ai vu l'émotion partout dans la salle, les rires, les larmes, parfois la stupeur ou l'incompréhension. Tous ces sentiments auxquels une petite fille de 4 ans qui se retrouve confrontée à ce qu'elle vit, une épreuve comme celle-ci, celle qui l'empêche de parler, de rire et de manger correctement, celle qui l'écarte des autres enfants, les enfants qu'elle croise à l'école, comme ceux qui se moquent, qui la fixent ou qui la jugent par sa différence. Elle questionne le rapport donc à cette différence, à l'étrangeté entre guillemets, celle qui est amour, géniale et tendresse, celle qui lui a tenu la main dans le noir. Elle reprend les codes des freak shows, nous montre ceux que l'on a considérés comme des monstres, parce que les vrais monstres, c'est ceux qui ont enfermé, moqué et souillé. J'ai beaucoup aimé le moment qu'on a passé ensemble. Julie est une personne très touchante et sans l'ombre d'un doute, bourrée de talent et animée par ses émotions, par l'amour, sa douceur et sa grandeur. Et on ne peut que la remercier d'avoir partagé son histoire avec nous. Pour en avoir parlé avec quelques amis à la sortie de la Maison du Théâtre, c'était magnifique. Bon, évidemment, vous pouvez aller la voir aussi. Les tarifs se placent entre 5 et 17 euros. Ce soir à 20h, jeudi 19 à 19h30, avec même une rencontre à l'issue de ce spectacle, et vendredi 20 à 20h. La pièce dure environ 1h15 et vous ne verrez pas le temps passer. Vous retrouverez plus d'informations sur le site damien.fr en recherchant Lymphblood Story 9424 de Julie Beauté. Et sans oublier, d'ailleurs, également, elle s'est associée à un photographe et expose à la galerie Totem, place Notre-Dame, intitulée « Chez nos manquants », visible jusqu'au 21 mars. Et voilà.
Merci beaucoup, Margot. Alors, quant à moi, je me suis rendue à la Comédie de Picardie et j'ai découvert le cabaret des oubliés. À la fin de la représentation, je me suis dit que je venais d'assister à quelque chose d'assez rare. Un spectacle qui réussit à être à la fois profondément politique, mais aussi profondément vivant. Sur scène, la compagnie H3P nous accueille dans un cabaret coloré, lumineux, presque chaleureux. On pourrait croire à un moment de divertissement un peu hors du monde, mais très vite, on comprend que ce cabaret-là est tout sauf une échappatoire. C'est un endroit où le monde s'invite avec ses violences, ses luttes et ses colères. Le metteur en scène, Nicolas Ducron, le dit très clairement. Il veut faire de ce spectacle un manifeste contre l'endormissement des consciences. Et pour ça, il s'appuie sur un matériau extrêmement fort, la chanson engagée. Ce qui est passionnant, c'est la diversité des textes et des époques convoquées. On passe de Boris Vian aux vulves assassines, de Souad Massi à Anne Sylvestre et de Pierre Perret à HK les saltimbanques. Comme une grande fresque de lutte qui traverse le temps et les frontières. Et surtout, chaque chanson vient porter un thème très précis. Il y a d'abord la question du travail avec les mains d'or de Lavelier, qui raconte la dignité ouvrière, la fatigue et la disparition des savoir-faire. Il y a l'écologie avec Di Papa de Zoufri Maracas ou Chic Planète de Hubert Mounier, qui dénonce la destruction progressive du monde qui nous entoure. Il y a le racisme avec Strange Fruit de Billie Holiday, moment particulièrement fort, presque suspendu, qui rappelle la violence de l'histoire, mais aussi son actualité. Il y a aussi le féminisme, bien sûr, avec des textes qui interrogent la place des femmes, leur invisibilisation, leur colère, et qui résonnent de manière très contemporaine, notamment grâce à deux chansons, Run the World Girls de Beyoncé et SLT de Suzanne. Et puis, il y a aussi l'engagement au sens large avec des chansons comme On lâche rien, qui viennent presque transformer le plateau en espace de résistance collective. Ce qui est très réussi, c'est que ces thèmes ne sont jamais simplement énoncés, ils sont incarnés. Et là, il faut vraiment parler des artistes. Quatre interprètes, à la fois musiciens, musiciennes, comédiens, comédiennes, d'une grande précision. Les voix sont très différentes, certaines très lyriques, d'autres plus rugueuses, plus ancrées, et pourtant elles s'accordent parfaitement. Il y a une vraie richesse sonore, amplifiée par des instruments parfois inattendus, qui donne au spectacle une couleur musicale très singulière. On sent aussi une grande générosité de jeu. Ça chante, ça joue, ça déborde parfois, mais toujours avec justesse. Visuellement, le spectacle s'appuie sur une esthétique de cabaret, avec un espace très symbolique, notamment cet arbre, qui traverse les saisons, avec une métaphore du temps qui passe et peut-être aussi de ces luttes qui reviennent encore et encore. Les personnages, eux, apparaissent d'abord masqués, des figures presque caricaturales, un peu burlesques. Il y a trois femmes surtout. Une jeune rebelle survoltée, interprétée par Justine Gambon, une femme plus posée mais déterminée, interprétée par Solo Gomez, et une vieille dame de l'Europe de l'Est, au caractère bien trempé, interprétée par Marie Lesnick. Trois âges, trois énergies, trois manières d'être en colère. Et puis, le dernier tiers du spectacle, les masques tombent, littéralement. Et là, on passe de la représentation à quelque chose de beaucoup plus intime. Les corps deviennent plus vulnérables, les voix plus directes. On voit apparaître des êtres humains avec leurs contradictions et leurs fragilités. Et au milieu de tout ça, il y a la place pour le rire. Notamment grâce à un personnage assez inattendu, Spinoza, un chien. Un chien philosophe un peu absurde qui vient poser des questions, créer des décalages et faire rire la salle. Un moment vraiment réussi parce qu'il permet de respirer sans jamais désamorcer le propos. C'est peut-être ça la grande force du spectacle, cet équilibre. Entre gravité et légèreté, entre colère et fête, entre engagement et plaisir de jeu. On sort de là avec des images, des chansons, des phrases qui restent. Et surtout avec cette idée que la chanson, quand elle est portée comme ça, peut être encore un véritable outil de pensée et de résistance. En résumé, le cabaret des oubliés, c'est un spectacle riche, engagé, profondément humain, porté par des artistes d'une grande qualité. Un cabaret qui ne cherche pas seulement à divertir, mais à réveiller. Et franchement, ça fait du bien. Alors, allez chanter, protester, vous syndiquer avec le cabaret des oubliés, ce soir mercredi 18 mars à 19h30, et jeudi 19 mars, attention, à 20h30, et c'est bien sûr à la Comédie de Picardie. Si vous ne pouvez pas prendre les dernières places pour ce soir et demain, j'ai une bonne nouvelle. Le spectacle passe dans toute la région. Je vous invite à découvrir les dates sur le site de la Comédie de Picardie d'Amiens. Voilà, c'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour une nouvelle émission sur Radio Campus Amiens. Et comme d'habitude, on se quitte en musique avec aujourd'hui l'Andromate de OK Will.
I'm sending out a lesson to the one who keeps on looking through glass frame at your name. Try to find the words instead, call the words inside my head. Heads are rolling, eyes are closing, I'll decide the game. Don't say that you don't say that.
TV.